Canal Sud 92.2 05 61 25 95 43 canalsud@wornet.net Canal Sud 92.2.
Question. Hug Fusker, me elf, gugugin, et percad, axqua, gulf, and the vavoga, lean, trufetat, ventic desk, gutu, yen, ua, n, bagabus, fuf, vadafat, zizizizel, fiasco, fatkadat, neuf.
Vous êtes sur Canal Sud 92.2, vous écoutiez les borborismes de Kurt Zwitters, et tout de suite, c'est l'émission La Textuelle. Aujourd'hui, dans l'émission La Textuelle, j'ai le plaisir de recevoir Clémence Millet, alias Miss Bouillon, qui va nous lire quelques textes de son cru, mais auparavant, un autre texte que tu as trouvé quelque part.
Bonjour, oui, ce texte, je l'ai trouvé quelque part, et c'est un texte de Gerasim Louka, qui s'appelle « Prendre corps ». Alors dans son corps, je lui ai fait quelques petites coupures, mais dans l'ensemble, le corps se tient. Prendre corps. Je te flore, tu me faunes. Je te peaux, je te porte et te fenêtre. Tu m'osses, tu m'océans, tu m'audaces. Tu me météorites. Je te lune, tu me nuages, tu me maréotes. Je te transparente, tu me pénombres, tu me translucides, tu me châteaux vides et me labyrinthes. Tu me debout et couché, tu m'obliques, je t'équinoxe. Je te phonétiquement, tu me hiéroglyphes, tu m'espaces, nous nous pulvérisâmes, nous nous scandaleusement, jour et nuit, et nous nous aujourd'hui même, je te corsage, tu m'odeures. Je te gorge, je te ventre, je te juge. Je te jupe, je te jartelle, je te peins, je te bac pour clavecin, sein et flûte, je te rétine, dans mon souffle, tu t'irises, je t'écris, tu me penses.
Clap, clap, clap.
On va écouter un poème de Rilke que tu as trouvé quelque part.
Alors, un poème de Rilke que j'ai trouvé quelque part entre deux croissants et un pain d'épices quand je suis allée acheter mon paquet de carottes hier au supermarché. Je l'ai trouvé là, il était par terre. Alors je l'ai pris, je l'ai déroulé Et je l'ai lu ce matin au petit déjeuner avec cette annonce mondiale qui nous arrivait en même temps. Mais bon, on va essayer de pas s'y tromper. Alors c'est parti pour un poème de Rilke. Sans, tranquille ami. Sans, tranquille ami de tant de large. Combien ton haleine accroît encore l'espace. Dans les poutres des clochers obscurs, laisse-toi sonner. Ça sonne, tiens. Ce qui t'épuise devient fort par cette nourriture. Va, va, va et viens dans la métamorphose. Quelle est ta plus pénible expérience ? S'il te semble amer de boire, fais-toi vin. Sois dans cette nuit de démesure la force magique au carrefour des sens et le sens de leur rencontre singulière. Que si le destin terrestre un jour t'oublie, à la calme terre dit « je coule », à l'eau vive dit « je suis ».
C'est un poème de Rilke, lu, trouvé par Clémence Millet alias Smith Bouillon. Et en écho, j'aimerais vous lire un texte de René Barbier, un chercheur au Centre d'innovation et de recherche pédagogique et contributeur du Journal des chercheurs. Détachement. Il faudrait revenir sur d'anciennes traces, combler les failles redécouvertes, disséquer les faux soleils, voir enfin ce qui résiste, tourner les yeux vers l'invisible, boire la rosée sur le silex, s'ouvrir aux moindres choses qui raclent le désespoir, prendre la main de l'aimé, suivre en vol une abeille jusqu'au dernier sommeil, embrasser, embraser l'univers indomptable. Trouver le silence dans le cri impossible, mordre sans faire le mal, sourire aux sources de l'ouragan, laisser la peau, laisser la peur enfouie dans les murs de la haine. Il faudrait, mais le puis-je, vouloir n'est pas pouvoir. Qui sait cuire le riz pour que sa buée devienne souffle? Qui change la forêt enflammée en plaine fertile? Vous écoutez la textuelle. Vous écoutez la textuelle. Et pendant que les éléments se déchaînent, nous, on choisit des textes et on les lit à l'antenne. Avec moi, Clémence Millet. Et puis, un petit texte dont j'avais l'intention de vous lire quelques lignes. Un texte de Bertrand Russell. Double sens de l'expression « être conscient ». Quand nous disons que nous sommes conscients, nous voulons dire deux choses. D'une part, que nous réagissons d'une certaine manière envers notre milieu. D'autre part, qu'il nous semble trouver, en regardant en nous-mêmes, une certaine qualité de nos pensées et de nos sentiments, qualité que nous ne trouvons pas dans les objets inanimés. En ce qui concerne notre réaction envers le milieu, elle consiste à être conscient de quelque chose. Si vous criez « Hé !», les gens se retournent, pas les pierres. Vous savez que si vous vous retournez vous-même dans un tel cas, c'est parce que vous avez entendu du bruit. Tant qu'on pouvait supposer qu'on percevait les objets du monde extérieur, on pouvait dire qu'en les percevant, on en était conscient. Maintenant, nous pouvons seulement dire que nous réagissons à des excitations. Les pierres en font autant, bien que les excitations auxquelles elles réagissent soient moins nombreuses. Ainsi, en ce qui concerne la perception extérieure, la différence entre une pierre et nous n'est qu'une différence de degré. La partie la plus importante de la notion de conscience concerne ce que nous découvrons par introspection. Non seulement nous réagissons envers les faits extérieurs, mais nous savons que nous réagissons. La pierre, croyons-nous, ne sait pas qu'elle réagit, mais si elle le fait, elle est consciente. Ici aussi, l'analyse montre qu'il ne s'agit que d'une différence de degré. Le fait de savoir que nous voyons quelque chose ne nous apprend rien de plus que l'acte de voir, à moins qu'il s'agisse d'un souvenir. Si l'on voit d'abord quelque chose, puis si l'on se dit qu'on vient de le voir, cette réflexion, qui paraît introspective, est en réalité un souvenir immédiat. On dira peut-être que la mémoire est une chose typiquement mentale, mais c'est contestable. La mémoire est une forme de l'habitude, et l'habitude une caractéristique du tissu nerveux, bien qu'elle puisse exister ailleurs, par exemple, dans un rouleau de papier qui s'enroule à nouveau une fois enroulé. Je ne prétends pas que ce qui précède soit une analyse complète de ce que nous appelons d'une façon vague la conscience. La question est vaste, elle exigerait un volume entier. Je veux seulement indiquer que ce qui paraît à première vue une notion précise est en réalité tout le contraire et que la psychologie scientifique a besoin d'un vocabulaire différent. Un vocabulaire différent, celui de Miss Bouillon.
Merci Amy pour cette mer, ce son de la mer. J'ai presque des notes iodées dans mes narines. Et ça me rappelle ce mot que des fois on dit merveille. Finalement, c'est quoi une merveille? C'est peut-être juste la mer qui veille dans ses longues vagues et ses drapées. Au creux de cette journée humide et dégoulinante, la mer nous accompagne. Alors, voyageons, prenons le large. Voilà, quelques petites... Alors, je vais vous lire deux, trois petites... essais poétiques, n'est-ce pas? Alors, c'est parti. Enivrez-vous. Enivrez-vous de mes 10 doigts de miel. Enivrez-vous. Enivrez-vous de tous mes toits de ciel. La nuit, debout, votez l'apicurien. Nez à nez dans la mêlée, pieds et poings retroussés, baisers boisés dans l'été retrouvé. Nez à nez dans la mêlée, pieds et poings retroussés, baisers boisés dans l'été retrouvé. Quand la terre détrempée dégorge l'aurore, je la vois boire, échevelée, des chevaliers de bronze et d'or. Quand la terre détrempée dégorge l'aurore, je la vois boire, échevelée, des chevaliers de bronze et d'or. En coulisses, mon cou lisse, tu t'y glisses, je coulisse. En coulisses, mon cou lisse, tu t'y glisses, je coulisse. L'or a la rage, c'est l'orage. Mais l'or, mon ange, est dans l'orange. Où l'or se range, où l'or se mange. L'orage, c'est l'âge d'or retrouvé. Et tout pète, et tout éclate. Ça claque dans la flaque, ça claque dans la flaque, ça claque. Mes lacets en étoiles filées, et mon nombril éclaboussé.
S'entr'ouvrir, pas con. S'entr'ouvrir, pas convoler, pour regarder ses contemporains et ses questions drosophiles. Thank you. écoutez l'émission La Textuelle avec nous, Clémence Millet, alias Miss Bouillon.
Bleu, 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 bleu. Alors, j'ai trouvé un petit... je voudrais vous lire un court extrait d'un roman, très connu, qui est une belle métaphore, simple, mais des fois la simplicité ça fait du bien, parce que la simplicité c'est pas forcément, voire c'est pas du tout la facilité. Donc c'est un roman de Richard Bach qui s'appelle Illusion, et dont le sous-titre est Le Messie récalcitrant. Et donc là c'est un petit extrait de ce roman qui campe deux personnages qui sont dans un cinéma à la page 86. C'était un bon film, dit-il. Mais le meilleur film du monde n'en demeure pas moins une illusion. Pas vrai? Les images ne bougent même pas. Elles paraissent bouger, c'est tout. Une lumière changeante qui paraît bouger sur un écran plat, posé dans le noir. C'est bien ça? Oui. Je commençais à comprendre. Les autres gens, tous les gens qui vont au cinéma, ici ou là, pourquoi y vont-ils, puisque ce n'est qu'une illusion? Bah, c'est une façon comme une autre de se distraire. S'amuser? D'accord, numéro 1. Il y a des films éducatifs? Parfait, c'est toujours ça. Apprendre, numéro 2. Peux-tu croire que des tas de gens, pour des raisons qui sont très valables à leurs yeux, prennent plaisir à se croire totalement réduits à l'impuissance dans leurs films? Non, tu ne veux pas le croire. Exact, dis-je. Tant que tu ne comprendras pas ça, tu te demanderas pourquoi certaines personnes sont malheureuses. Elles sont malheureuses parce qu'elles ont choisi d'être malheureuses, Richard. Et c'est très bien ainsi. Nous sommes des créatures joueuses et rieuses, comme des loutres. Nous sommes les loutres de l'univers. Nous ne pouvons pas mourir, nous ne pouvons pas nous blesser nous-mêmes, pas plus que les illusions sur l'écran ne peuvent être blessés. Mais nous pouvons croire que nous souffrons et vivre n'importe quelle agonie dans ses moindres détails. Nous pouvons croire que nous sommes des victimes, des tués et des tueurs, ou bien des êtres ballottés par le sort, tantôt bons, tantôt mauvais. Plusieurs vies, demandai-je. Combien as-tu vu de films? Oh, pff ! Des films à la vie relative sur cette planète, à la vie sur d'autres planètes, tout ce qui comporte espace et temps, et cinéma complet, illusion complète. Mais entre-temps, on peut apprendre une énorme quantité de choses, et on peut s'amuser pas mal avec nos illusions, n'est-ce pas? Jusqu'à quel point pousses-tu ce truc de cinéma, Don? Jusqu'à quel point va ton désir? Tu as vu le film de ce soir en partie parce que je désirais le voir. Bien des gens choisissent des vies parce qu'ils prennent plaisir à faire des choses ensemble. Les acteurs du film de ce soir ont joué ensemble dans d'autres films, avant ou après. Ça dépend de l'ordre dans lequel tu les vois. Et tu pourrais même les voir simultanément sur des écrans voisins. Nous prenons nos tickets pour ces films. Nous payons notre entrée en acceptant de croire en la réalité de l'espace et en la réalité du temps. Ni l'une ni l'autre ne sont réelles. Mais nul ne peut apparaître sur cette planète ou dans n'importe quel système s'il n'accepte pas de payer ce prix. Il y a des gens qui n'ont jamais vu de vie dans l'espace-temps. Il y a des gens qui ne vont jamais au cinéma. Point d'interrogation. Je vois. Ils apprennent les choses par d'autres moyens. Exact, me dit-il tout content. L'espace-temps est une école assez primaire. Mais des tas de gens s'enferment dans l'illusion, même s'ils s'y ennuient, et ils ont envie que les lumières se rallument le plus tard possible. Et qui écrit ces films, Don? C'est étonnant de voir combien nous savons de choses quand nous posons les questions à nous-mêmes, et non aux autres. Tu trouves pas? Qui écrit ces films, Richard? C'est nous, dis-je. Qui joue? Bref, nous. Qui est l'opérateur, le projectionniste, l'exploitant, le caissier, l'ouvreuse et le spectateur? Qui est libre de partir au milieu de la séance, à n'importe quel moment, de modifier le scénario à sa guise? Qui est libre de voir le même film des dizaines de fois? Celui qui le désire? Ça te suffit comme liberté? Dit-il. Est-ce que c'est pour cela que le cinéma a eu tant de succès? Parce que nous ressentons d'instinct qu'il constitue l'image de nos vies? Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Cela a-t-il une grande importance? Non, n'est-ce pas? Quel est le projecteur? L'esprit, dis-je. L'imagination. C'est notre imagination, quoi que tu en dises. Et quel est le film? Demanda-t-il. Tout ce que nous autorisons à pénétrer dans notre imagination. Qu'est-ce que c'est? Oui, peut-être. Tu peux tenir une bobine de film entre tes mains, dit-il. Et elle est complète et achevée. Un commencement, un milieu et une fin, tout est là à la même seconde, dans la bobine, au même millionième de seconde. Le film existe indépendamment du temps qu'il enregistre. Et si tu sais de quel film il s'agit, tu sais ce qui va s'y passer, avant de mettre le pied dans la salle. Des batailles, de l'excitation, des gagnants, des perdants, de l'amour, des catastrophes. Tu sais que tout ça est dans la bobine. Mais pour pouvoir être pris par le film, t'évader dedans, pour en profiter au maximum, il faut quand même que tu mettes la bobine dans un projecteur. Et que tu la fasses passer derrière l'objectif minute par minute. Toute illusion exige espace et temps pour être perçue. Alors, tu sors tes rangs, tu prends ton ticket et tu t'installes. Tu oublies ce qui se passe en dehors de la salle et le film commence pour toi. Et personne n'est vraiment blessé? Le sang, c'est de la sauce tomate? Non, c'est du vrai sang, dit-il. Mais ça pourrait être aussi bien être de la sauce tomate, étant donné l'effet sur notre vie réelle. Et la réalité? La réalité est divinement indifférente, Richard. Une mère ne se soucie pas du rôle que tient son enfant au cours de ses jeux. Un jour voleur, le lendemain gendarme... L'être ne sait même rien de nos illusions et de nos amusettes. Il ne connaît que lui-même et nous, à son image, parfaite, achevée. Je ne suis pas sûr d'avoir envie d'être parfait et achevé. Tu parles d'un ennui. Regarde le ciel, dit-il. C'était un tel coq à l'âne que je levai les yeux vers le ciel. Les cirrus s'effilochaient, tout là-haut. Et les premiers rayons de lune leur faisaient des auréoles d'argent. Un beau ciel, dis-je. Un ciel achevé? Le ciel est toujours achevé, Don. Es-tu en train de me dire que tout en changeant à chaque seconde, le ciel est toujours un ciel achevé? J'ai compris, Don. Je ne suis pas bouché. Et la mer est toujours une mer achevée. Et la mer est toujours une mer achevée. tout en changeant sans cesse, elle aussi. Si la perfection est stagnation, alors le ciel est un marécage. Et l'être est tout de même pas de la vase. N'est tout de même pas de la vase, repris-je, en le corrigeant sans faire attention. Parfait, et toujours en train de changer. Bon, je l'accepte. Tu l'as accepté il y a très longtemps, puisque tu es à cheval sur les temps. Je me tournai vers lui sans m'arrêter. Tu n'as jamais trouvé ennuyeux d'être dans une seule dimension ? Oh, est-ce que je me trouve vraiment dans une seule dimension ? Dit-il. Et toi ? Pourquoi tout ce que je dis est faux ? Tout ce que tu dis est faux ? Reprit-il. Je crois que je me suis trompé de voix. Tu penses peut-être à l'immobilier ? Dit-il. L'immobilier ou les assurances ? Il y a de l'avenir dans l'immobilier. C'est un avenir que tu veux. D'accord. Je m'excuse, dis-je. Je ne veux pas d'avenir, ni de passé. J'aimerais autant devenir un bon vieux maître du monde de l'illusion. Dans une semaine, peut-être ? Écoute, Richard, j'espère que ce ne sera pas si long. Je le regardais attentivement, mais il ne souriait pas.
Direction mes bras et dans mon lit. Quand je te raconterai l'histoire, il était une fois, un soir par hasard, j'ai rencontré ce vieux Rimbaud. Nous avons dormi dans le désert noir en parlant doucement, tendrement de toi. Mais où es-tu?
Mais où es-tu? Où vis-tu, Ophélie?
De retour dans l'émission La Textuelle, l'émission texte choisi aujourd'hui par Clémence Millet et moi-même. Un petit texte d'Henri Bergson, extrait de La Pensée et le Mouvant. Une certaine ignorance de soi est utile à l'action. Dans le monde, tout le monde a pu remarquer qu'il est plus malaisé d'avancer dans la connaissance de soi que dans celle du monde extérieur. Hors de soi, l'effort pour apprendre est naturel. On le donne avec une facilité croissante. On applique des règles. Au-dedans, l'attention doit rester tendue et le progrès devenir de plus en plus pénible. On croirait remonter la pente de la nature. N'y a-t-il pas là quelque chose de surprenant? Nous sommes intérieurs à nous-mêmes, et notre personnalité est ce que nous devrions le mieux connaître. Point du tout. Notre esprit y est comme à l'étranger, tandis que la matière lui est familière, et que chez elle, il se sent chez lui. Mais ce qu'une certaine ignorance de soi est peut-être utile à un être qui doit s'extérioriser pour agir, elle répond à une nécessité de la vie. Notre action s'exerce sur la matière, et elle est d'autant plus efficace que la connaissance de la matière a été poussée plus loin. Henri Bergson, La Pensée et le Mouvant. J'enchaîne directement avec un poème de René Barbier, écrit le samedi 9 janvier 2016, Cosmos. Ne te retourne pas, l'étoile est fraise des bois, dégustée par les dieux, l'univers, la carcasse de galaxies disparue, la carcasse de galaxies disparue, un jour tu comprendras l'inquiétante étrangeté originaire. C'était un poème de René Barbier, lisible sur le site Le Journal des chercheurs. Alors, je ne résiste pas à l'envie de te solliciter, Clémence, pour que tu nous relises un des textes dont tu nous as fait part en début d'émission.
Alors, petit texte. Alors, lequel je vais relire? Un des miens?
Oui, un des tiens.
Né à nez dans la mielée, né à nez dans la mielée, pieds et poings retroussés, baisers boisés dans l'été, retrouvés. Quand la terre détrempée dégorge l'aurore, je la vois boire, échevelée, des chevaliers de bronze et d'or. C'est pour ça que, en coulisses, mon cou, lisse, tu t'y glisses, je coulisse.
Je te remercie, Clémence.
Con placer.
Ce superbe texte. Je crois qu'on est un peu en avance. J'avais dans l'intention de vous lire un autre texte de Bergson, mais je crois que ce
oui,
sera...
Oui, un poquito de Bergson.
Alors, justement, un texte qui pour moi est un petit peu énigmatique, puisque je n'ai pas toute l'œuvre de Bergson en tête, mais on va dire que celui-ci est extrait de L'énergie spirituelle, un ouvrage que je n'ai pas lu, que je compte lire un jour dans ma vie.
J'avais commencé, mais il faudrait que je m'y remette. Ça fait longtemps.
Conscience signifie mémoire. Il n'a rien de plus immédiatement donné, rien de plus évidemment réel que la conscience. Et l'esprit humain est la conscience même. Or, conscience signifie avant tout mémoire. En ce moment, je cause avec vous, je prononce le mot causerie. Il est clair que ma conscience se représente ce mot tout d'un coup. Sinon, elle n'y verrait pas un mot unique, elle ne lui attribuerait pas un sens. Pourtant, lorsque j'articule la dernière syllabe du mot, les deux premières ont été articulées déjà. Elles sont du passé par rapport à celle-là, qui devrait alors s'appeler du présent. Mais cette dernière syllabe, ri, je ne l'ai pas prononcé instantanément. Le temps, si court soit-il, pendant lequel je l'ai émise, est décomposable en parties, et ces parties sont du passé par rapport à la dernière d'entre elles, qui serait, elle, du présent définitif, si elle n'était pas décomposable à son tour, de sorte que vous avez beau faire, vous ne pourrez trouver une ligne de démarcation entre le passé et le présent, ni par conséquent entre la mémoire et la conscience. À vrai dire, quand j'articule le mot causerie, j'ai présent à l'esprit non seulement le commencement, le milieu et la fin du mot, mais encore les mots qui ont précédé, mais encore tout ce que j'ai déjà prononcé de la phrase, sinon j'aurais perdu le fil de mon discours. Maintenant, si la ponctuation du discours eût été différente, ma phrase eût pu commencer plus tôt. Elle eût englobé par exemple la phrase précédente, et mon présent se fût dilaté comme davantage dans le passé. Poussons ce raisonnement jusqu'au bout. Supposons que mon discours dure depuis des années, depuis le premier éveil de ma conscience, qu'il se poursuive en une phrase unique, et que ma conscience soit assez détachée de l'avenir, assez désintéressée de l'action, pour s'employer exclusivement à embrasser le sens de la phrase. Je ne chercherai pas plus d'explication. Alors, à la conservation intégrale de cette phrase, que je n'en cherche à la survivance des deux premières syllabes du mot « causerie », quand je le prononce la dernière. Or, je crois bien que notre vie intérieure tout entière est quelque chose comme une phrase unique entamée dès le premier éveil de la conscience, phrases semées de virgules, mais nulle part coupées par des points. Henri Bergson, L'énergie spirituelle, page 55-57. Quelques mots sur ce texte à la fois abscon et éclairant.
Clairant. Moi, j'aime bien le mot articulé. Articulé. Il y a pas mal de choses là-dedans. Il y a l'art, il y a le lait, il y a le cul. Art. Etc, etc, etc. Sinon, la mémoire et la conscience, oui, c'est puissant. Bergson, c'est vrai que c'est la notion de durée chez Bergson, c'est quelque chose qui m'a toujours interloqué pas mal. La différence entre la durée interne, la durée à laquelle on sent les événements, comment les événements sont perçus dans notre durée interne. Mmh. La perception du temps, en fait, et qui est différente du temps des horloges. C'est vrai qu'il critiquait beaucoup l'idée générale que le temps, en fait, se découpe comme l'espace. On dit 3h et 3h05, 3h10. Mmh. Cette découpe spatiale du temps qui n'a peut-être rien à voir avec la manière dont on vit le temps à l'intérieur et du coup qui nomme la durée, en fait.
Effectivement, le découpage spatio-temporel, ouais, systématique et scientifique peut être rasant pour la subjectivité.
C'est un outil, mais c'est peut-être
sachant que Bergson était quand même un grand scientifique et que il a étudié pas mal la méthode expérimentale. Moi, je connais surtout les textes qu'il a fait là-dessus.
Ouais, moi, je les connais moins, mais ouais. Mais c'est ça qui est bon aussi, quand la science et la philosophie, la poésie peuvent se joindre aussi.
Je voulais vous faire écouter un dernier morceau, un morceau du Turbo Niglo Trio, dont on a entendu une brève au début. Je crois qu'on va se le déguster, nous avons tant parlé.
N'oublions pas nos cinq sens et la dimension du plaisir, car on perçoit avec les cinq sens. Alors santé, toucher, renifler, regarder, écouter, et puis c'est parti pour la zic.
Allez, le Turbo Niglo Trio. Ah. Thank you.
déjà l'heure de se quitter sur les ondes de Canal Sud 92.2. Vous avez écouté l'émission La Textuelle. Vous pouvez retrouver des extraits d'émissions et des émissions complètes à la rubrique La Textuelle sur le site canalsud.net. Je remercie chaleureusement Clémence Millet, alias Miss Bouillon, qui est venue entre deux spectacles, puisque je vous fais part en exclusivité de la nouvelle. Elle sera présente sur le festival Marionnettissimo.
En déambulation avec des marionnettes, des sorties de marionnettes.
Tu nous dis ça au micro.
Donc là, ça ne sera pas un véritable spectacle cette année, mais ça sera des sorties de marionnettes, des apparitions de marionnettes au bar, dans la soirée, avant les spectacles. Et voilà, on sera plusieurs à faire des sorties de marionnettes. Donc là, c'est une...
Est-ce que tu sortiras ta marionnette, ta dernière création?
Ouais, c'est celle-là, voilà, Marinelli. Donc moi, comme une de mes passions, c'est les odeurs, le nez, le sniff. Du coup, j'ai fait un énorme nez en marionnette qui s'appelle Narinelli et qui peut-être viendra vous chatouiller les narines ou vous renifler le creux de la nuque. Voilà, c'est une marionnette, c'est des techniques, une marionnette hybride qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est une marionnette portée, donc une partie de mon corps est son corps. Et puis après, il a la tête, enfin là, pour le coup, c'est le nez, qui est différent de mon corps. Donc c'est un mélange entre le corps du comédien et le corps de la marionnette.
Donc si ça vous intéresse, ce sera sur Marionnettissimo, renseignez-vous sur le net. Ça commence la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse entre les mains de la bande de la radio, l'ordinateur, qui va vous envoyer de la musique. Et nous, on se dit à la semaine prochaine avec d'autres textes, d'autres morceaux choisis.